Mais à 3 heures de l'après-midi, Andy était toujours signalé manquant. Norton lui-même est arrivé en catastrophe dans la division où nous étions parqués depuis le matin. Est-ce qu'on nous avait interrogés? On avait passé la journée à se faire interroger par des matons qui sentaient sur leur nuque l'haleine du dragon. Nous avons tous dit la même chose. Nous n'avions rien vu, rien entendu. Et pour ce que j'en sais, nous avons dit la vérité. Moi, en tout cas. Tout ce que nous pouvions dire, c'est qu'Andy était effectivement dans sa cellule à la fermeture et à l'extinction des feux une heure plus tard. Un petit malin a suggéré qu'Andy s'était glissé par le trou de la serrure. La suggestion lui a valu 4 jours de mitard. Ils étaient sur les nerfs. Alors Norton est arrivé à grands pas. Il nous a foudroyés de ses yeux bleus, assez brûlants pour faire jaillir des étincelles de l'acier trempé de nos cages. Il nous a regardés comme s'il croyait que nous étions tous dans le coup. Probable qu'il y croyait. Il est entré dans la cellule d'Andy et a regardé autour de lui. Elle était comme Andy l'avait laissée. Le lit ouvert sans qu'il semble qu'on ait dormi dedans. Les cailloux sur la fenêtre. Pas tous. Il avait emporté ce qu'il préférait.
« Des cailloux !»
a sifflé Norton en les balayant d'un geste, à grand fracas. Gognard, qui faisait des heures supplémentaires, a fait la grimace mais n'a rien dit. Norton a posé les yeux sur Linda Ronstadt. Linda regardait par-dessus son épaule, les mains enfoncées dans les poches revolvers d'un pantalon fauve particulièrement collant. Elle portait un haut de maillot et un bronzage des plus californiens. Ce poster a dû salement heurter la sensibilité baptiste du directeur Norton. En le voyant le fixer d'un œil féroce, je me suis souvenu de ce qu'Andy avait dit un jour, qu'il avait presque l'impression de pouvoir faire un pas dans l'image pour rejoindre la fille. Très réellement, c'est exactement ce qu'il a fait. Comme Norton a mis quelques secondes à s'en apercevoir.
« Misérable créature !»
a-t-il grondé en arrachant l'affiche d'un seul geste du bras, révélant le trou béant dans le béton effrité. Gognard n'a pas voulu y aller. Norton le lui a ordonné. Bon Dieu, ils ont dû entendre dans toute la tôle le directeur ordonner à Rich Gognard d'entrer dans ce trou. Et Gognard a refusé net, tout simplement.
« Pour ça, j'aurai votre place !»
a hurlé Norton, hystérique comme une femme en pleine crise, ayant perdu toute maîtrise de lui. Son cou était devenu rouge sombre et sur son front 2 veines palpitaient violemment.
« Vous pouvez compter là-dessus, espèce de Français ! J'aurai votre place et je veillerai à ce que vous n'en ayez plus dans aucune prison de Nouvelle-Angleterre !»
Sans un mot, Gognard tendit son revolver à Norton, la crosse en avant. Il en avait assez. Il était resté 2 heures de plus, bientôt 3, et il en avait assez. C'était comme si le départ d'Andy de notre heureuse petite famille avait fait plonger Norton dans une folie intime qui était là depuis longtemps. Il était vraiment dingue ce soir-là. Je ne sais pas de quelle folie intime il s'agissait, bien sûr. Mais je sais qu'il y avait 26 tollards pour écouter la petite engueulade entre Norton et Gognard alors que les dernières lueurs quittaient le triste ciel de cette fin d'hiver. Tous des longues peines blanchies sous le harnais, qui avions vu se succéder les administrateurs, les plus vaches ou les plus hypocrites, et nous savions tous que le directeur Samuel Norton venait de passer ce que les ingénieurs se plaisent à appeler le point de rupture. Et par Dieu, il m'a presque semblé entendre rire, de très loin, Andrew Dufresne. Norton a finalement trouvé un maigrichon buveur d'eau de l'équipe de nuit pour entrer dans ce trou dissimulé derrière Linda Ronstadt. Le maigrichon s'appelait Rory Tremont, et ce n'était pas vraiment un feu d'artifice côté cervelle. Il a peut-être cru qu'il allait gagner une médaille de bronze ou autre. En tout cas, Norton a eu de la chance d'envoyer là-dedans un type à peu près de la même taille et corpulence qu'Andy. S'il avait envoyé un type au gros cul, ce que sont apparemment presque tous les gardiens de prison, le type y serait resté coincé, aussi sûr que le bon Dieu a fait les coccinelles. Et il y serait peut-être encore. Tremont est entré avec une corde en nylon, qu'un garde avait trouvée dans le coffre de sa voiture, attachée autour de la taille, et une grosse lampe torche à la main. Gognard, qui avait changé d'idée au sujet de sa démission et semblait être resté le seul à garder l'esprit clair, avait déniché une série de plans. Je sais très bien ce qu'on y voyait. Un mur en coupe qui avait l'allure d'un sandwich épais de 3 mètres. Les couches extérieures et intérieures faisaient 1,20 mètres chacune. Entre les deux, des canalisations occupaient encore 60 centimètres, la substantifique moelle de la chose, si vous voulez. Et plutôt 2 fois qu'une. La voix de Tremont est sortie du trou, creuse, comme morte.
« Il y a quelque chose qui pue là-dedans, monsieur le directeur. »«
Peu importe, continuez !»
Les jambes de Tremont ont disparu à l'intérieur. Puis ses pieds. Sa lampe a jeté de vagues lueurs.
« Monsieur le directeur, ça sent horriblement mauvais. »«
Peu importe, j'ai dit !»
a crié Norton. Douloureuse, la voix du garde est montée jusqu'à nous.
« Ça sent la merde. Oh Dieu, c'est ça, c'est de la merde. Oh mon Dieu, laissez-moi sortir de là, je vais dégueuler mes tripes. Oh merde, c'est de la merde. Oh mon Dieu !»
Ensuite est venu le bruit facilement reconnaissable de Rory Tremont rendant ses 2 derniers repas. Eh bien, pour moi, c'était trop. Je n'ai pas pu me retenir. La journée entière, foutre non, les 30 dernières années me sont revenues d'un coup et je me suis mis à rire à en crever. Un rire que j'avais oublié depuis que je n'étais plus un homme libre. Le genre de rire que je n'aurais jamais cru retrouver entre ces murs gris. Et oh mon Dieu, comme c'était bon.
« Sortez cet homme !»
a hurlé Norton. Et je riais si fort que je ne savais pas s'il parlait de moi ou de Tremont. J'ai juste continué à rire en tapant des pieds et en me tenant le ventre. Je n'aurais pas pu m'arrêter, même si Norton avait menacé de m'abattre sur place à bout portant.
« Sortez-le !»
Eh bien, voisin et ami, c'est moi qui suis sorti. Droit à l'isolement où je suis resté 15 jours. Ça a été long. Mais de temps en temps, je repensais à ce pauvre et pas très malin Rory Tremont en train de beugler « Oh merde, c'est de la merde !» Je repensais à Andy Dufresne descendant vers le sud dans sa propre voiture, avec un beau costume. Et il fallait que je rie. J'ai pratiquement fait ces 15 jours de mitard les doigts dans le nez. Peut-être parce qu'une part de moi était avec Andy. Andy qui avait plongé dans la merde pour ressortir propre de l'autre côté. Andy qui se dirigeait vers le Pacifique. Une 12 de types m'ont raconté le reste de la nuit. De toute façon, il ne s'est pas passé grand-chose. Je pense que Tremont a décidé qu'il n'avait presque rien à perdre, après avoir rendu son déjeuner et son dîner, puisqu'il a continué. Aucun danger de tomber dans le puits entre les 2 murs. C'était si étroit, en fait, qu'il a dû se forcer à descendre. Il a dit plus tard qu'il ne pouvait respirer qu'à moitié, qu'il avait eu l'impression d'être enterré vivant. Ce qu'il a trouvé au fond du puits, c'est le collecteur desservant les 14 toilettes de la Division 5, une conduite en céramique posée 33 ans plus tôt. On y avait fait un trou. Près des débris, dans la conduite, Tremont a trouvé le casse-pierre d'Andy. Dufresne était libre, mais cela n'avait pas été facile. L'égout était encore plus étroit que le puits où Tremont s'était glissé. Il n'a pas essayé d'y entrer, et pour ce que j'en sais, personne ne l'a fait. Ça a dû être absolument innommable. Un rat a jailli de la conduite quand Tremont examinait le trou et le marteau, et il a juré que ce rat était gros comme un épagneul. Tremont a remonté le puits aussi vite qu'un chimpanzé. Andy, lui, y était entré. Il savait peut-être que l'égout se déversait dans un ruisseau 500 mètres plus loin, dans les marais à l'ouest de la prison. Je pense qu'il le savait. Les plans de la prison n'étaient pas loin, et il a dû trouver le moyen de les consulter. Méthodique, il était. Il avait sûrement appris que cet égout était le dernier à ne pas être relié à la nouvelle usine d'épuration, et il avait compris qu'il fallait qu'il se lance au milieu de 1975 ou jamais, parce qu'au mois d'août, on allait effectivement faire le branchement. 500 mètres. La longueur de 5 terrains de foot. Presque la moitié d'un mille. Il a rampé tout du long, peut-être avec une petite lampe stylo dans une main, peut-être seulement 2 ou 3 boîtes d'allumettes. Il a traversé une infection que je ne peux pas ou ne veux pas imaginer. À sa place, la claustrophobie m'aurait rendu fou 12 fois. Mais il l'a fait. Au bout de l'égout, on a trouvé quelques empreintes boueuses sortant du ruisseau léthargique et pollué où aboutissait la conduite. 3 kilomètres plus loin, une équipe de recherche a trouvé son uniforme. Le lendemain. Cette histoire a fait les grands titres des journaux, comme vous vous en doutez. Mais dans un rayon de 30 bornes autour de la prison, il n'y eut personne pour signaler une voiture volée, ou des vêtements, ou un homme nu au clair de lune. Pas même un chien qui est aboyé dans une ferme. Il est sorti de l'égout et il est parti en fumée. Mais je parie qu'il est parti en direction de Buxton. 3 mois après cette journée mémorable, le directeur Norton a démissionné. C'était un homme brisé, comme j'ai le plaisir de vous l'annoncer. Il n'avait plus aucun ressort. Le dernier jour, il s'est traîné dehors tête basse comme un vieux tolard allant chercher ses pilules de codéine à l'infirmerie. C'est Gognard qui a pris sa place, ce qui a dû lui paraître de la dernière injustice. Norton, pour ce que j'en sais, est rentré à Elliott. Il va chaque dimanche au Temple Baptiste et se demande toujours comment diable Andy Dufresne a pu avoir raison de lui. J'aurais pu lui dire. La réponse à cette question est la simplicité même. Certains en ont, Sam. Certains n'en ont pas et n'en auront jamais. Voilà ce que je sais. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense. Je peux me tromper sur des détails, mais je parierais ma montre et la chaîne avec que j'ai raison sur les grandes lignes. Andy étant ce qu'il était, cela n'a pu se passer que de 2 façons. De temps en temps, quand j'y repense, je me rappelle de Norma Den, cet Indien à moitié barge. « Un mec sympa », avait dit l'Indien après avoir partagé sa cellule pendant 8 mois. « J'ai été content de partir, moi. » Sale courant d'air dans la cellule. Tout le temps froid. Il ne laisse personne toucher ses affaires. C'est ok. Mec sympa. Jamais foutu de moi. Mais sale courant d'air. Pauvre fou. Il en a su plus que nous tous et plus tôt que nous. Il a fallu 8 longs mois pour qu'Andy puisse se débarrasser de lui et récupérer sa cellule. S'il n'y avait pas eu ces 8 mois, juste après l'arrivée du directeur Norton, je crois vraiment qu'Andy aurait été libre avant la démission de Nixon. Maintenant, je crois que tout a commencé en 1949. Pas avec le casse-pierre, mais avec le poster de Rita Hayworth. Je vous ai dit comme il m'avait paru nerveux en me le demandant, inquiet, plein d'excitation contenue. À l'époque, j'ai seulement cru qu'il était gêné, qu'Andy était du genre à ne pas vouloir qu'on sache qu'il avait des pieds d'argile et qu'il voulait une femme, même si ce n'était qu'en imagination. Mais je pense aujourd'hui que j'ai eu tort, que son excitation avait une toute autre origine. Qui donc est responsable du trou que Norton a fini par découvrir derrière l'image d'une fille qui n'était même pas née quand la photo de Rita Hayworth a été prise? Le travail et l'acharnement d'Andy Dufresne, sûr. Je ne veux rien lui enlever. Mais il y a eu 2 autres paramètres dans cette équation. Beaucoup de chance et le béton de la WPA. Pour la chance, vous n'avez sûrement pas besoin que je vous explique. Quant au béton, j'ai moi-même vérifié. J'ai investi un peu de temps et 2 timbres pour écrire d'abord au département d'histoire de l'université du Maine et ensuite à un type dont ils m'ont donné l'adresse. Ce type avait été chef d'équipe sur le projet WPA qui avait construit le quartier de haute sécurité de Shawshank. Ce bâtiment, où sont les divisions 3, 4 et 5, a été construit en 1934-37. La plupart des gens ne pensent pas au ciment et au béton en termes de progrès technologique, au contraire des voitures, des hauts fourneaux et des fusées. Mais c'est pourtant le cas. Le ciment moderne n'est apparu que vers 1870, et le béton est né avec le siècle. Il est aussi difficile de réussir du béton que de faire du bon pain. On peut mettre trop d'eau, ou pas assez. On peut le faire trop gras, trop maigre, et de même avec le sable et le gravier. Or, en 1934, la mise au point des mélanges était beaucoup moins sophistiquée qu'aujourd'hui. Les murs de la division étaient solides, certes, mais pas vraiment secs comme de la biscotte. En fait, ils étaient même carrément humides. Au bout d'une période de pluie, l'eau se mettait à suinter, voire à couler. Des fissures apparaissaient, parfois profondes, de plusieurs centimètres, qu'on rebouchait habituellement au ciment. Voyons maintenant Andy Dufresne, dans le bloc 5. Un diplômé de l'Université du Maine, en gestion, mais aussi un étudiant qui a fait 3 ans de géologie, en plus du droit des affaires. La géologie, en fait, était devenue son principal passe-temps. J'imagine que cela convenait à son tempérament patient, méticuleux. 1000 ans d'époque glaciaire par-ci, 1 million d'années de plissements montagneux par-là. Des plaques rocheuses frottant l'une sur l'autre dans les entrailles de la Terre pendant des millénaires. La pression. Un jour, Andy m'a dit que la géologie se résume à l'étude des pressions. Et du temps, bien sûr. Andy a eu le temps de les étudier, ces murs. Tout le temps. Quand les portes des cellules claquent et que les lumières s'éteignent, il n'y a rien d'autre à regarder. Ceux qui vont en tôle pour la première fois ont souvent du mal à s'adapter à l'enfermement. Ils attrapent la fièvre des barreaux. Parfois, il faut les traîner à l'infirmerie et les shooter pour qu'ils redescendent sur terre. Il n'est pas rare d'entendre un nouveau membre de notre heureuse petite famille cogner sur ses barreaux en hurlant qu'on lui ouvre. Et dès que ça dure un peu longtemps, une chanson s'élève des autres cellules.
« Poisson frais, eh petit poisson, poisson frais !» Poisson frais, aujourd'hui du poisson frais.
Andy n'a pas flippé à ce point-là quand il est arrivé, en 1948. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a rien ressenti. Il a pu en arriver au bord de la folie, comme certains, et d'autres qui passent de l'autre côté. Une vie entière balayée en un clin d'œil, un long cauchemar en face de soi, s'étendant à l'infini. Une longue saison en enfer. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Je vous le demande. Il a cherché, désespérément, à calmer son esprit fiévreux. Oh, il y a toutes sortes de manières de se distraire, même en prison. Là-dessus, il semble que l'esprit humain soit riche de possibilités infinies. Je vous ai parlé du sculpteur et de ses 3 âges de Jésus. Il y avait des collectionneurs de monnaie qui se faisaient sans cesse voler leurs trésors, des collectionneurs de timbres, un type qui avait des cartes postales venant de 35 pays différents. Et je vous préviens qu'il vous aurait envoyé ad patres s'il vous avait trouvé en train de lui carotter une carte postale. Andy s'est intéressé aux cailloux et aux murs de sa cellule. Je me dis qu'il a dû vouloir simplement commencer par graver ses initiales sur le mur où Rita Hayworth allait bientôt s'afficher. Ses initiales, ou peut-être quelques vers. Or, il a découvert un béton étonnamment fragile. Peut-être a-t-il voulu graver ses initiales et qu'un morceau du mur est tombé par terre. Je le vois d'ici, allongé sur sa couchette, examinant un éclat de béton dans tous les sens. Oublie que ta vie est en ruine. Oublie la montagne de malchance qui t'a enterré ici. Oublie tout ça, et voyons un peu ce bout de béton. Quelques mois plus tard, il a pu se dire que ce serait drôle de voir jusqu'où il pourrait creuser le mur. Mais on ne peut pas commencer un trou, et un jour, lors de l'inspection hebdomadaire, ou d'une inspection surprise qui sont fréquentes et font chaque fois des découvertes intéressantes, genre alcool, drogue, photos porno, armes, dire au gardien « Ça, juste une petite excavation dans le mur de ma cellule. Ne vous inquiétez pas, mon brave. » Non, il n'aurait pas pu. Alors il est venu me demander de lui procurer un poster de Rita Hayworth. Pas un petit, un grand. Et puis, bien sûr, il avait le casse-pierre. Je me souviens d'avoir pensé, quand je lui ai trouvé ce gadget en 1948, qu'il faudrait 6 siècles à un homme pour percer le mur avec. Presque vrai. Or, Andy n'avait que la moitié du mur à traverser, et avec un béton relativement fragile, il lui a tout de même fallu 2 marteaux et 27 ans de travail pour faire un trou à sa taille, si mince fut-il. Bien sûr, il a perdu près d'un an à cause de Normaden, et il ne pouvait travailler que la nuit, quand presque tout le monde dort. Y compris les gardiens de l'équipe de nuit. Mais j'estime que c'est d'avoir à se débarrasser des gravats qu'il a le plus ralenti. Il pouvait étouffer le bruit en enveloppant son marteau d'une toile à polir, mais que faire du ciment pulvérisé et des morceaux entiers? Je crois qu'il a dû écraser les morceaux, et... Je me suis souvenu du dimanche après qu'il eut reçu son casse-pierre. Je le revois traverser la cour de promenade, le visage gonflé par sa dernière séance avec les chiennes. Il s'est baissé, il a ramassé un caillou, qui a disparu dans sa manche. Un vieux truc de prisonnier. Les manches ou le revers du pantalon. Et j'ai un autre souvenir, à la fois très net et flou. Une image qui a pu revenir plusieurs fois. Celle d'Andy Dufresne marchant dans la cour, un beau jour d'été, où il n'y avait pas un souffle de vent. Sauf pour la petite brise qui faisait voler un nuage de sable à chacun de ses pas. Donc son pantalon avait peut-être des caches en dessous des genoux. On remplit les caches, on se balade, et quand on est tranquille et que personne ne vous regarde, on tire un coup sec au fond des poches, qui sont bien sûr reliées aux caches par une ficelle ou un fil solide. Les gravats vous dégoulinent le long des jambes à chaque pas. Pendant la guerre, les soldats prisonniers se servaient de ce truc pour creuser des tunnels. Les années ont passé et Andy a transporté peu à peu son bout de mur dans la cour. Il a joué le jeu des directeurs, l'un après l'autre, et tous ont cru qu'il le faisait pour développer la bibliothèque. Cela comptait, je n'en doute pas. Mais d'abord, Andy voulait rester seul dans sa cellule, le numéro 14 du bloc 5. Je crains qu'il n'ait pas vraiment cru ou espéré réussir, en tout cas pas au début. Il croyait probablement avoir affaire à un mur plein, épais de 3 mètres, et se retrouver 10 mètres au-dessus de la cour s'il arrivait à le percer. Mais, je vous le dis, je ne crois pas que ça l'inquiétait outre mesure. Il devait penser en ces termes. Je n'avance que de 30 cm en 7 ans, à peu près. Il me faudrait donc 70 ans pour passer, et j'aurais alors 101 ans. Seconde supposition que j'aurais faite, si j'avais été lui, éventuellement, je serais pris. J'écoperais d'une lourde peine de mitard, sans parler d'une grosse tache noire sur mon dossier. Après tout, il y avait les inspections normales et les visites surprises. Environ tous les 15 jours. Il a dû penser que cela ne pourrait pas durer longtemps. Tôt ou tard, un maton allait donner un coup d'œil derrière Rita Hayworth pour s'assurer qu'elle ne cachait pas un manche de cuillère aiguisé ou quelques joints scotchés au mur. Et là, il a dû se dire « Au diable !» Il en a peut-être même fait un jeu. Jusqu'où je pourrais creuser sans être découvert? Il n'y a rien de plus emmerdant que la vie en prison, et le risque de se faire surprendre au milieu de la nuit par une inspection imprévue, la fiche décollée, a dû donner du piment à son existence pendant quelques années. Je crois aussi qu'il n'a pas pu s'en remettre uniquement à la chance. Pas pendant 27 ans. Mais je suis obligé de me dire que durant 2 ans, jusqu'à la mi-mai 1950, quand il a réglé l'histoire d'héritage de Byron Hadley, c'est exactement ce qu'il a fait. Ou peut-être avait-il déjà de quoi aider la chance, même alors. Il avait de l'argent, ce qui lui permettait de graisser la patte toutes les semaines à un type pour qu'on soit coulant avec lui. La plupart des gardiens, pour un bon prix, sont d'accord. Cela leur remplit les poches, et le tolard peut garder ses photos à branlette et ses cigarettes spéciales. De plus, Andy était un prisonnier modèle. Tranquille, poli, respectueux, non violent. Ce sont les dingues et les furieux qui se font mettre leurs cellules sans dessus-dessous tous les 6 mois. Les matelas déballés, les oreillers ouverts, la vidange des toilettes soigneusement sondée. Et puis, en 1950, Andy est devenu plus qu'un détenu modèle. Il s'est transformé en une denrée rare et précieuse. Un meurtrier qui vous faisait récupérer la TVA et couper aux droits de succession. Il donnait gratuitement des conseils immobiliers, trouvait des échappatoires fiscales, remplissait des demandes de prêts, parfois avec une grande imagination. Je me souviens de l'avoir vu un jour derrière son bureau, dans la bibliothèque, épluchant patiemment un contrat de prêt automobile, paragraphe par paragraphe, avec un maton qui voulait s'acheter une DeSoto d'occasion, disant à cette tête de lard ce qu'il y avait de bon et de moins bon dans le contrat, lui expliquant qu'il pouvait demander un prêt sans se faire trop arnaquer, le détournant des compagnies de crédit, lesquelles ne valaient guère mieux, en ce temps-là, que des usuriers de bas étage. Quand il a eu fini, le maton a commencé à tendre la main et l'a retiré très vite. L'espace d'un instant, voyez-vous, il avait oublié qu'il discutait avec une mascotte, pas avec un homme. Andy se mettait au courant des nouvelles lois fiscales et de l'évolution de la bourse pour rester efficace malgré son séjour au frigo, ce qui n'était pas évident. Il obtenait des crédits pour la bibliothèque, sa guerre d'usure avec les chiennes avait pris fin, sa cellule n'était jamais trop bousculée. C'était un bon nègre,